presque juif. Un podcast d'Académ par Ruben Honigman.
Je ne me suis jamais tellement intéressé à l'antisémitisme. Si des gens n'aiment pas les juifs, tant pis pour eux. En revanche, ce qui m'intrigue, ce sont les autres. Ceux que le fait juif arrête, qui y trouvent quelque chose qui leur parle, les émeut et les bouleverse. Je vais à la rencontre de ceux que j'appelle des compagnons de route du peuple juif. Ils n'ont pas d'ascendance juive, ne cherchent pas à se convertir au judaïsme et ne sont pas non plus ce qu'on appelle communément des philosémites. Ils se tiennent sur le seuil sans jamais le franchir. Ensemble, nous essayons de refaire leur chemin à l'envers, évoquer une rencontre, une lecture, un appel, démêler les méandres d'une trajectoire à laquelle rien, en apparence, ne les prédisposait. J'interroge leur choix de vie, animé par l'intuition que s'il existe un mystère juif, c'est peut-être par la marge qu'il convient de le sonder.
Aujourd'hui, nous sommes reçus par Katel Bartolo.
Je m'appelle Katel Bartolo et je suis historienne, directrice de recherche au CNRS et je travaille sur l'histoire des juifs et du judaïsme aux époques hellénistiques et romaines. En gros, entre moins 300 et plus 300.
Bonjour Katel Bartolo.
Bonjour.
Vous faites partie de celles et ceux qui, dans le monde de la recherche en France, ont la plus grande familiarité, presque intimité, avec les textes juifs, bibliques comme rabbiniques, mais pas seulement avec les textes, aussi avec les milieux dans lesquels ils ont été rédigés. Et pourtant, vous n'êtes pas juive.
C'est exact.
Vous êtes quoi ?
Eh bien, moi, je suis d'origine athée. J'ai grandi dans une famille en Bretagne, dans un milieu très anticlérical, très hostile à l'Église catholique, et de manière générale très suspicieux vis-à-vis de toutes les religions, considérées dans une perspective quasi-marxiste comme l'opium du peuple. Et donc, j'avoue que je n'avais en fait aucune éducation religieuse et aucune connaissance de la Bible, jusqu'à ce que je fasse la connaissance d'étudiants protestants à l'université, à Paris. Et je me suis convertie au protestantisme, donc à l'âge de 20 ans.
La première rencontre avec ces textes bibliques, c'était donc à Paris, avec ces étudiants. Il y a un voyage en Israël aussi qui a été décisif.
Tout à fait. Alors, donc, comme je l'ai dit, je n'ai aucune culture chrétienne quand je demande le baptême. Et un mois après mon baptême, je pars en Israël sur une sorte de coup de tête, d'intuition. Peut-être aussi du fait de l'influence de mon meilleur ami de l'époque qui était juif, athée également, mais juif. Et je pars seule en Israël, sac au dos, ce que je n'avais jamais fait de ma vie. Donc c'est vraiment un geste un peu incongru. Et puis là, c'est un coup de foudre pour le pays, pour les habitants. Donc je déambule avec mon sac, je rencontre des juifs bien sûr, mais aussi des arabes chrétiens, des arabes musulmans. Je circule vraiment dans tout le pays, sauf Eilat. En fait, j'avais prévu de descendre jusqu'à Eilat, mais je m'arrête avant à Jérusalem. Et quand j'arrive à Jérusalem, en fait, je ne veux plus repartir. Et j'ai été déplacée dans mon rapport au monde par ce que j'ai vécu lors de ce premier voyage, notamment par l'hospitalité des personnes que j'ai rencontrées. Donc en fait, je n'ai pas du tout envie de revenir. Je reprends l'avion, je pleure dans l'avion. Enfin bon, bref, c'est vraiment quelque chose qui me bouleverse profondément. Et donc, à partir de là, j'essaye de retourner en Israël. Et j'y retourne, effectivement, pour un second voyage. Et à la suite de ce second voyage, je commence à apprendre l'hébreu moderne et l'arabe moderne pour parler avec les gens. Pas du tout encore dans une démarche d'étude des textes. Mais en même temps, pendant ce premier voyage, j'ai une prise de conscience qui est que, mais finalement, Jésus est juif. Donc, si je veux comprendre son message, eh bien, il faut que j'aille m'intéresser à cette culture juive et au judaïsme. Et donc, je commence à suivre des cours de judaïsme à l'Alliance israélite universelle, des cours sur le Midrash avec Shmuel Trigano, des cours de Talmud, etc., Je retourne aussi l'année suivante faire un oulpan d'été à l'Université hébraïque de Jérusalem, où là, j'ai aussi des cours de pensée juive, d'introduction à la Kabbale, etc. Et vraiment, ça me passionne. La découverte du judaïsme, donc, se fait presque en même temps pour moi que la découverte du christianisme. Il faut imaginer, je pars de rien. Donc, en fait, dès le départ, la fréquentation des textes de la tradition juive oriente ma lecture du Nouveau Testament. C'est-à-dire, pour moi, je fais tout de suite des connexions. Et du coup, voilà, je suis très vite persuadée que la connaissance du judaïsme est indispensable, en réalité, à la bonne compréhension de l'Évangile, du message du Nouveau Testament.
Vous voulez nous dire pourquoi ?
Mais parce qu'il y a une question de contexte, hein, parce que Jésus, ses disciples, les apôtres, Paul, etc., sont tous juifs. Et ils parlent comme des juifs du 1er siècle de notre ère. Même s'il y a eu, bien évidemment, une rédaction postérieure par les communautés qui ont produit les textes du Nouveau Testament. Je ne le nie pas. Mais en même temps, il y a quand même une transmission orale de paroles qui s'ancrent dans un contexte juif vraiment très, très clair. Et plus je travaille sur les textes juifs antiques, plus je mesure à quel point cet ancrage est profond. Moi, je pourrais donner beaucoup d'exemples. Par exemple, la notion de Jésus, fils de Dieu. Pour les chrétiens, Jésus, fils de Dieu, c'est la deuxième personne de la Trinité. Et évidemment, d'un point de vue juif, ça paraît mais une aberration, quelque chose qui vient de la philosophie grecque ou d'élaboration théologique chrétienne largement postérieure. Mais en réalité, dans le contexte du judaïsme du 1er siècle, l'expression fils de Dieu, elle a un sens très précis. Elle veut dire c'est le Messie. Et ça se comprend dans la tradition biblique et la tradition d'Israël, puisqu'en fait, déjà le descendant de David, déjà dans la prophétie du deuxième livre de Samuel, quand Nathan va voir David, il lui dit tu auras toujours un descendant sur le trône du royaume de Juda, un descendant de ta lignée, et Dieu sera pour lui un père, et il sera son fils. Et on a cette perception du roi davidique, descendant de David, comme fils de Dieu. Et en fait, Jésus, fils de Dieu, mais c'est tout simplement Jésus, Messie, hein, c'est la même chose en réalité.
Donc ce qui distingue finalement les chrétiens, enfin ceux qui ne sont pas encore des chrétiens à ce moment-là, les proto-chrétiens et ceux qui vont rester juifs, c'est la reconnaissance de Jésus comme Messie, comme Machiach.
Exactement.
Est-ce qu'un christianisme qui ne serait pas anti-juif, qui ne serait pas animé par un ressentiment contre, je cite, l'aveuglement de la synagogue, l'aveuglement des juifs, la non-reconnaissance de Jésus comme Messie, est-ce qu'un tel christianisme est possible ?
Oui, il est possible et il a existé historiquement à peu près à toutes les époques, hein, même s'il a été minoritaire. Un des pères de l'Église du IVe siècle, Saint Jean Chrysostome, se plaint dans ses homélies que les chrétiens fréquentent la synagogue, éprouvent le besoin de se rendre à la synagogue pour Kippour ou pour Pessah, etc. Donc on voit bien qu'en réalité, la séparation est compliquée. Que beaucoup de chrétiens trouvent que c'est important de pratiquer un certain nombre de mitzvot de la Torah, voire de rester proche des communautés juives. Donc ça, c'est une chose. Et puis on voit qu'il y a aussi des conversions au judaïsme tout au long de l'histoire du christianisme. Des personnes qui, à un moment, disent « mais moi, je trouve que finalement, la tradition d'Israël est plus authentique, plus fidèle au projet de Dieu. » Et donc, passe au judaïsme.
C'est une idée qui vous a traversé l'esprit, vous, une fois que vous étiez converti au protestantisme, que vous avez découvert Israël, les textes juifs. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, bon, je vais me convertir une deuxième fois à la tradition d'Israël ?
Alors, je vais être très honnête avec vous, non, je ne me suis pas posé cette question. Pour moi, c'était très clair. En fait, c'est un peu comme si mon rabbin, c'était Jésus. Alors, bien sûr, c'est plus qu'un rabbin, on ne va pas se mentir. Mais disons que voilà, mon rapport au judaïsme passe par lui quand même. Donc, je ne peux pas le trahir. Et évidemment, une conversion de quelqu'un qui dirait « Je veux devenir juif, mais mon rabbin, c'est Jésus hein. » ne passerait pas très bien, je pense, au niveau du consistoire. Et moi, ma place, je la vois plutôt comme dans l'Église pour rappeler aux chrétiens les origines juives du christianisme et l'importance de ce lien avec le judaïsme et le peuple juif. Et je pense que c'est plus utile, d'une certaine manière, d'être là que de me convertir au judaïsme. Par contre, je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de travail du côté des églises.
C'est ce que j'allais vous demander, c'est-à-dire ce discours que Jésus était juif et que les premiers chrétiens étaient tous juifs, c'est un discours martelé depuis Vatican II, au niveau des institutions, au niveau des élites. Est-ce que ça se diffuse vers la base ? Est-ce que les chrétiens, aujourd'hui, ont vraiment pris conscience de ça ?
Alors évidemment, les chrétiens, c'est très vaste. Donc, tout dépend des milieux. Il y a des milieux où, petit à petit, certaines idées pénètrent. Mais il y a encore énormément de travail. Non, récemment encore, je rencontrais une dame catholique qui me disait « Ah, ben, quand je pense à Jésus, je ne pense pas qu'il était juif. » Et pourquoi ? Parce qu'en fait, pour beaucoup de catholiques ou de chrétiens, je pense que pour eux, Jésus, c'est une espèce d'homme universel qui porte un message éthique, comme ça, qui transcende les temps, les lieux. Et ils ne voient pas l'ancrage juif de Jésus. Peut-être parce que si, voilà, dans leur paroisse, le prêtre n'est pas formé, n'en parle jamais, etc. etc. Donc déjà, il faut que ça descende des milieux universitaires, des facultés de théologie, au niveau des pasteurs et des prêtres, y compris jusqu'aux plus profondes campagnes.
Le ruissellement.
Et c'est le ruissellement, tout à fait. Et puis ensuite, ça touche les gens ou pas. Mais force est de constater que non, il y a vraiment encore des réticences. Elle me disait, oui, on sait que Marie et Joseph étaient juifs, ses parents, mais lui-même n'est pas perçu dans sa judéité.
Et ça vous agace quand vous entendez ça ?
Ça, c'est pas que ça m'agace, c'est que ça m'attriste. Parce que, voilà, quand on sait ce qu'a été l'anti-judaïsme de l'Église, on se dit qu'on n'est pas encore sorti d'affaire.
C'est-à-dire que dans votre vision des choses, les Juifs auraient une autonomie, une fonction autonome, indépendamment de leur tendance à se convertir finalement au christianisme ou pas.
Alors c'est une grande question pour les chrétiens, c'est la question, est-ce qu'il y a deux alliances ou une seule et même alliance qui s'accomplit de manière différente à différents moments de l'histoire ? Il y a un penseur protestant qui s'appelle Darby, qui a développé toute une théologie justement où l'alliance d'Israël est complètement à part en réalité de l'alliance en Jésus-Christ. Je ne pense pas que ce soit la position majoritaire des églises, ni même peut-être la plus cohérente par rapport à la perspective chrétienne. Mais je pense qu'il y a un mystère d'Israël pour la théologie chrétienne. C'est déjà le contenu de l'épître aux Romains de l'apôtre Paul, qui dit « Tout commence avec Israël. Israël, c'est l'olivier sur lequel viennent se greffer en fait, les non-juifs croyants. » Et il dit, oui, il y a des branches d'Israël qui ont été enlevées, mais elles seront replantées sur l'olivier, etc. Enfin, voilà. Et il dit, c'est un mystère. Mmh. Et bien évidemment, pour les chrétiens, c'est un mystère. Pourquoi tous les juifs n'ont pas reconnu Jésus comme le Messie, etc. etc.
Et comment vous voyez les choses, vous ?
Mais moi, je pense qu'il y a une vocation d'Israël. Je pense que il y a aussi un passage du Nouveau Testament qui dit ça, c'est que l'alliance de Dieu est sans repentir, sans retour en arrière. Donc l'alliance de Dieu avec Israël ne peut pas être remise en question, quoi qu'il arrive. Et donc cette alliance demeure, même après la venue du Christ. L'alliance avec Israël demeure. Et il y a un cheminement propre, une vocation spirituelle propre d'Israël, lumière des nations, pour reprendre cette expression. Et je pense personnellement qu'il y a des vocations spirituelles complémentaires, à la fois entre juifs et chrétiens, et aussi entre chrétiens, parce que les différentes églises chrétiennes ont aussi des sensibilités, des vocations spirituelles propres. Donc je ne suis pas pour une espèce d'unification de tout le monde dans un grand tout.
Un syncrétisme.
Oui, une sorte de grand syncrétisme. Dans les évangiles, Jésus dit « il y a plusieurs chambres dans la demeure de mon Père », enfin voilà, plusieurs espaces différents. Peut-être que c'est quelque chose qui peut nous permettre de réfléchir à une pluralité des sensibilités, plutôt que de vouloir ramener tout le monde dans le giron de notre Sainte Mère l'Église, comme on disait autrefois.
Pourquoi est-ce que vous vous êtes converti au protestantisme ?
Le protestantisme me correspond beaucoup mieux pour plusieurs raisons. D'abord, j'ai quand même cet héritage familial d'anti-catholicisme très marqué, avec des souvenirs quand même assez durs de certains actes, de certaines paroles de l'Église catholique en Bretagne dans la première moitié du XXe siècle, avec lesquels je suis en profond désaccord. Bon, j'espère que la plupart des catholiques aujourd'hui seraient également en désaccord avec ce type de propos. Il y a la place des femmes. Moi, la place des femmes dans l'Église catholique, c'est quelque chose qui ne me convient pas du tout. Donc, alors qu'en côté protestant, du moins dans la tradition réformée, aujourd'hui, les femmes sont tout à fait à égalité avec les hommes, avec le ministère pastoral féminin. Et il y a aussi j'ai aussi un problème de, disons, venant d'une famille, voilà, de plutôt de profs et de chercheurs, donc athées, très critiques, etc. Une des choses les plus importantes pour moi, c'est la liberté du questionnement. Et ça, je l'ai trouvé dans l'Église protestante unie de France, beaucoup plus, je pense, que je n'aurais pu le trouver dans l'Église catholique. Ce qui m'amène à un dernier point, et qui est, je pense, le point le plus important, en fait, qui différencie les protestants des catholiques, c'est ce qu'on appelle l'ecclésiologie, la façon dont on conçoit l'Église, dont on organise l'Église, et dont on gère la question du pouvoir dans l'Église. La structure pyramidale de l'Église catholique, avec une parole qui descend d'en haut et que, en gros, les fidèles doivent accepter sans pouvoir la contester ou la discuter, c'est quelque chose qui ne me convient pas du tout. Tandis que, du côté protestant, on est en organisation synodo-presbytérale, donc on fait des réunions, on discute entre nous, il y a des votes, et ça se passe au niveau régional, ça remonte au niveau national, et puis même s'il y a des décisions au niveau national, ça ne s'impose pas nécessairement aux paroisses, au niveau local. Chaque communauté peut garder une marge de décision, d'interprétation, et puis de toute façon, le protestantisme, hein, c'est toujours le renvoi à la conscience individuelle. Ma conscience devant Dieu, en mon âme et conscience, je dois décider. Je ne dirai pas que mon pasteur a décidé pour moi, que l'Église a décidé pour moi. Je suis responsable de ma foi, je suis responsable de ce que je dis sur Dieu ou sur tout autre sujet.
On a déjà deux éléments sur trois, là, parce que sur la place des femmes, je ne saurais dire, dans le judaïsme, mais sur le questionnement et sur l'absence de hiérarchie ecclésiastique, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le judaïsme aussi.
Tout à fait. C'est quelque chose qui rapproche évidemment beaucoup les protestants des juifs. Le troisième élément étant le rapport au texte biblique, puisque pendant longtemps, dans l'Église catholique, le rapport devait passer par la médiation du prêtre. Ma grand-mère me racontait encore, hein, au début du XXe siècle, en Bretagne, il était hors de question d'accéder au texte biblique, en dehors de la médiation du prêtre et de l'Église. Pour les protestants, au contraire, chaque individu est encouragé à aller lire la Bible lui-même et à chercher le sens par lui-même.
Les premiers juifs, vous les avez rencontrés en Israël seulement ou est-ce qu'en France déjà vous connaissiez des personnes juives ?
Alors donc, avant même ma conversion, en fait, j'avais des amis juifs, mais qui étaient généralement athées, vraiment totalement non pratiquants. Et par la suite, évidemment, j'ai rencontré... Évidemment, donc j'ai rencontré des juifs en Israël, mais ça, de manière ponctuelle, puis plus durable par la suite quand je suis retournée y vivre. Mais j'ai rencontré des juifs dans les cours de judaïsme que j'ai suivis, ou dans mon cours d'hébreu, dans mon cours d'oulpan, où j'étais la seule non-juive. Donc, ou dans mon oulpan de l'été 94 à Jérusalem, où là aussi, en fait, l'essentiel des étudiants qui faisaient cet oulpan étaient juifs, et en l'occurrence des juifs français. Puisque c'était un oulpan, donc on avait cours d'hébreu le matin, cours de judaïsme en français l'après-midi. Et donc, de retour à Paris suite à cet oulpan, en fait, j'ai gardé des liens d'amitié avec plusieurs de ces compagnons d'oulpan. Et donc là, j'ai eu l'occasion de découvrir un peu plus le judaïsme français. Donc, notamment, invité par un de ses camarades, j'ai fréquenté la synagogue de Rivonne Crigier, par exemple. J'allais parfois écouter l'étude de la paracha avant la célébration, mais je restais aussi des fois à la célébration. Donc j'ai eu cette chance de pouvoir accéder un peu à...
Au vécu juif.
Au vécu juif aussi, ici en France. Voilà. Et puis, mais surtout, mais je dois dire qu'en fait, j'ai surtout accédé au vécu juif en vivant en Israël. Donc d'abord pendant 2 ans, pendant ma thèse, de 98 à 2000... Et puis ensuite, pendant 4 ans, en tant que chercheuse CNRS, en poste au Centre de recherche français à Jérusalem, où là, la première fois, j'avais une bourse du gouvernement israélien via le ministère des Affaires étrangères en France. Donc j'étais doctorante, étudiante étrangère à l'Université hébraïque de Jérusalem. J'avais un tuteur qui était Michael Stone, qui a travaillé sur Qumran et sur les textes de la littérature juive du Second Temple. Mais j'ai aussi suivi les cours de beaucoup d'autres enseignants de l'Université hébraïque de Jérusalem. J'avais vraiment le niveau minimal en hébreu pour suivre des cours d'université en hébreu. Donc C'était très difficile, surtout quand on devait traduire du grec ancien en hébreu moderne. Ça, c'était quand même assez acrobatique. Mais j'ai énormément appris. C'est vraiment là que j'ai été formée, en fait, à l'histoire du judaïsme du Second Temple, par les meilleurs spécialistes qu'on peut imaginer. Et donc, j'ai évidemment fréquenté beaucoup de... Enfin, en fait, tout mon entourage, quasiment, c'était des juifs israéliens. Et en fait, j'ai toujours gardé un lien amical et scientifique avec beaucoup de collègues de l'université hébraïque et puis aussi d'autres universités en Israël parce que, de fil en aiguille, de colloques en livres collectifs... En fait, j'ai travaillé avec des profs de toutes les universités d'Israël. Et je suis aujourd'hui en contact avec des enseignants de toutes les universités d'Israël.
Et avec tous ces gens-là, vous parlez hébreu ?
Oui, 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 en général, oui.
Si vous parlez hébreu couramment, en fait ?
Oui, oui, oui.
Et oui. Les textes, le Midrash, ou les textes de Qumran, ou les textes bibliques, vous les lisez en hébreu dans le texte ?
Oui, bien sûr, hein. Bien sûr. Bah oui, il faut lire les sources dans la langue d'origine.
Est-ce qu'il arrive que les gens vous prennent pour juive ?
Ah oui, très souvent, bien sûr. Ah oui, oui, en Israël en particulier, les gens pensaient que j'avais fait mon alia. Et en plus, j'ai moins l'accent français que la plupart des Français en Israël, quand je parle hébreu.
Donc, et du coup, vous dites quoi ? Vous rectifiez ?
Ah ben oui, j'explique. Oui, bien sûr. Ah oui, parce qu'on me demande alors, tu comptes faire ton alia ? Alors là, j'explique. Je dis, non, je ne compte pas faire mon alia parce que je ne suis pas juive.
Vous n'avez pas le droit au retour. Est-ce que vous avez l'impression que parfois, dans certains milieux juifs ou pour certaines personnes, ça les gêne qu'il y ait comme ça une personne non juive qui soit en plein milieu de la science juive, du savoir juif ?
D'abord, ça a été la question des femmes. Parce que le monde des études rabbiniques, à l'origine, c'est un monde d'hommes et d'hommes juifs qui ont en général eu une éducation à la yeshiva. Beaucoup de parcours, même d'universitaires qui travaillent sur les textes rabbiniques, ce sont encore des hommes qui ont eu une éducation à la yeshiva. Et puis petit à petit, on a vu des femmes commencer à faire des doctorats en littérature rabbinique, non seulement alors aux États-Unis bien sûr, donc en général des femmes juives, mais donc qui avaient une connaissance de la tradition, des textes, mais qui n'avaient pas fait ce parcours en yeshiva. Et ça s'est développé maintenant aussi en Israël. En Israël, on a maintenant même à l'Université hébraïque de Jérusalem, depuis un ou deux ans, dans le département de Talmud, véritable forteresse des études philologiques sur les manuscrits, des midrashim, etc., on a une chercheuse. Et puis, il y a aussi... Une chercheuse juive, bien sûr, israélienne. Et on a aussi une professeure de littérature rabbinique de l'Université de Tel Aviv, Vered Noam, qui a obtenu le prix d'Israël, le Pras Israël. Donc on voit que c'est vraiment, ça a énormément changé. Les femmes sont maintenant légitimes, même dans les études talmudiques, etc. Et puis par ailleurs, il y a aussi des non-juifs qui ont commencé à faire des doctorats en littérature rabbinique. Donc c'est vraiment petit à petit un milieu qui s'ouvre. aux yeux de certains peut-être. Bien sûr, il y a toujours un avantage, évidemment, à avoir grandi dans ces textes depuis le plus jeune âge. Ça, on ne va pas nier qu'il y a une familiarité.
Oui, il y a peut-être une fraîcheur aussi apportée par celui qui n'a pas grandi dans ce monde-là.
Voilà, c'est ça. Là, c'est l'avantage du regard extérieur et puis d'autres approches, d'autres parcours. Et c'est vrai, notamment aux États-Unis, on a quand même une très grande diversité d'approches aujourd'hui des textes rabbiniques.
Vous n'êtes pas non plus cantonné à cette période du Second Temple. Vous avez aussi coordonné, enfin dirigé un ouvrage avec Pierre Savy sur l'histoire générale des Juifs en 80 dates. Je me suis demandé, est-ce qu'avec le temps, vous avez l'impression que c'est aussi devenu votre propre histoire un peu, cette histoire d'Israël ?
Ah oui, tout à fait. Tout à fait. C'est... D'abord, les textes... En fait, les textes vous habitent au bout d'un moment. Ils font partie de vous. Et pour moi, en fait, l'histoire juive, maintenant, elle fait partie de moi. C'est aussi mon histoire. Et l'histoire d'Israël, à la fois ancienne et contemporaine, fait partie de moi. J'ai quand même vécu 6 années de ma vie en Israël. J'ai énormément de liens, d'amis, de collaborations. Bien évidemment, ce n'est pas... Il n'y a pas de séparation. Ce n'est pas un boulot où le soir, je rentre chez moi et je laisse voilà,
c'est
mes dossiers.
Totalité.
C'est un tout. C'est aussi une démarche existentielle. C'est une recherche qui est à différents niveaux. Au niveau rationnel, hein, avec une démarche scientifique, mais aussi une recherche spirituelle, une recherche existentielle, une recherche aussi sur le plan humain. Je reviens aussi sur la question de comment j'ai pu fréquenter vraiment connaître la vie juive un peu de l'intérieur. Donc c'est en Israël en particulier que j'ai pu vivre ça. Et je voulais aller vivre en Israël pendant ma thèse parce que je voulais justement faire l'expérience de ce que c'est que vivre dans une société juive. En plus, c'était très intéressant parce que c'était aussi pour moi l'expérience d'être minoritaire en tant que chrétienne dans une société juive. Juste faire cette expérience d'un renversement de situation et puis connaître la vie juive de l'intérieur, vivre au rythme en fait, des fêtes juives, du Shabbat, etc. Voir qu'est-ce que ça donne le judaïsme quand il est vécu par l'ensemble d'une société et pas simplement en communauté, à la synagogue ou chez soi. Donc, j'étais tout le temps invitée pour les fêtes. J'ai même été invitée pour Kippour. J'étais invitée pour Kippour par des familles qui n'étaient pas religieuses et qui me disaient « Oh, tu vas pas rester toute seule pendant Kippour et viens donc passer la journée avec nous. »
C'est touchant.
Voilà, c'est touchant. Alors moi, en fait, je préférais aller à la synagogue à Kippour. Donc je leur disais « Non, merci, ça va très bien. » Parce que j'aimais bien aller écouter voilà, les prières, etc.
Donc c'est le moment où vous avez découvert le peuple juif.
Tout à fait. Et puis vraiment les fêtes juives. C'est-à-dire cette opportunité qu'il serait bon que plus de chrétiens aient. Donc je lance un appel hein, aux familles juives pour que vous invitiez des chrétiens chez vous.
À Kippour.
Non, pas à Kippour pour le coup, mais pour d'autres fêtes, pour leur faire goûter en fait l'ambiance des fêtes juives, parce que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire.
On a parlé d'Israël, puisque c'est là-bas quand même que les choses ont été catalysées pour vous, même si elles ont commencé à Paris. Le retour des juifs sur leur terre, depuis la fin du 19e siècle, disons, hein, le sionisme, pour appeler un chat un chat, est-ce que vous considérez qu'il y a une dimension théologique, messianique, là-dedans?
Bah, ça donne le vertige, évidemment. Bah, c'est même d'un point de vue historien, en fait, hein, ça donne le vertige, parce que c'est quand même un cas extrêmement unique dans l'histoire.
Avec renaissance d'une langue.
Avec renaissance d'une langue, c'est ce que j'allais dire, absolument. Donc, renaissance de l'hébreu, enfin, c'est absolument fascinant, d'un point de vue historique. Je m'intéresse aussi à la question du sionisme chrétien.
Ah oui.
Hein, très développé, notamment aux États-Unis, dans des milieux plutôt de type évangélique. Donc qui apporte un soutien à l'État d'Israël, mais
en espérant que les Juifs se convertiront.
Mais voilà, avec quand même une théologie assez problématique derrière.
Quelque chose d'un peu pervers là-dedans.
Oui, il y a quand même quelque chose de pervers, parce qu'en définitive, ce qui les intéresse, c'est la recréation d'un État juif comme un signe pour le retour de Jésus et pour la fin des temps. Et que ce scénario de la fin des temps envisage la mort de millions de gens et la mort d'une bonne partie du peuple d'Israël, ça n'est qu'un détail de l'histoire, si vous voulez, dans le plan divin à leurs yeux. Donc moi, je suis assez réticente vis-à-vis de ce sionisme chrétien.
Et quand on est, comme vous, à la fois historienne et croyante, hein, faut bien employer des mots qui existent, la notion de fin de l'histoire, ça a du sens?
Oui, mais bon, tous ceux qui en ont parlé se sont trompés, y compris l'apôtre Paul, hein, pour qui croyait que le retour de Jésus, c'était après-demain, ce qui d'ailleurs explique un certain nombre de ses propos. Il n'y avait plus rien à réformer ni à améliorer sur Terre, puisque en gros, la fin des temps était pour après-demain. Il s'est trompé. Et beaucoup d'autres après lui, hein, qui n'ont cessé de nous annoncer la fin des temps, la fin de l'histoire, avec en général des conséquences éthiques assez désastreuses. Donc, moi, je refuse de spéculer là-dessus.
Mais est-ce qu'il y a quelque chose à attendre?
Qu'est-ce
qu'on attend?
Je vous avoue que je ne crois pas trop à une ère messianique sur Terre. Hein, un jour où vraiment nous aurons réglé tous nos problèmes, où la justice régnera, la paix universelle régnera. Sur Terre, j'ai beaucoup de mal à y croire.
Et pourquoi on prie?
On prie pour que le règne de Dieu advienne, mais je ne suis pas sûre qu'il advienne en ce monde, mais plutôt dans un monde transformé d'un tout autre ordre.
Avec un cœur neuf.
Voilà. La circoncision du cœur.
On espère une transformation, en tout cas.
Oui, mais une transformation vraiment qui se situe peut-être dans un autre ordre de réalité même, que celle que nous avons sous les yeux.
Dans l'intériorité, notamment, peut-être. Dans l'intime.
Alors, ça commence ici et maintenant dans l'intériorité, ça c'est certain. Ouais. Et dans les relations interpersonnelles, etc., bien sûr.
Vous écoutant, on comprend bien que Israël, l'État pour le coup, le pays au moins, c'est une part de chez vous aussi, avec le temps que vous y avez passé, avec les amis, les relations que vous y avez nouées. Le 7 octobre, ça représentait quoi pour vous? Vous avez vécu ça comment?
Je l'ai vécu dans un état de sidération, mais dans des circonstances personnelles qui faisaient que j'étais déjà dans un état émotionnel compliqué, parce qu'en fait on venait de diagnostiquer à mon père un cancer incurable qu'il a emporté 2 mois après, et donc j'étais très mobilisée par la maladie de mon père, et là-dessus est arrivée l'annonce de ce massacre incroyable dans l'histoire d'Israël du 7 octobre. Et j'ai regardé les images dans un état de stupeur. Je n'y croyais pas. Et puis dans un état de tristesse et puis un peu de désespoir, quoi.
Et pourtant, vous n'êtes pas dupe, vous êtes historienne. Vous savez que c'est un peu une règle de l'histoire juive, la détestation dont il fait l'objet.
Alors, je ne pense pas que ce soit un invariant. Parce que, par exemple, dans le monde gréco-romain, il y avait aussi beaucoup d'attirance pour le judaïsme. On a des témoignages de conversion au judaïsme parmi les Grecs et les Romains, en particulier à l'époque de l'Empire romain. Donc il y a deux faces de la médaille, je dirais. Il y a la détestation, et on a des textes grecs et romains qui c'était le sujet de ma thèse, hein, j'ai fait une thèse sur les accusations de misanthropie contre les juifs dans les textes grecs et romains de l'Antiquité.
C'est-à-dire qu'on reproche aux juifs d'être misanthropes.
On reproche aux juifs d'être misanthropes.
De détester le genre humain. Oui.
Exactement, c'est ce qu'on trouve chez Tacite et d'autres auteurs avant. On leur reproche en fait de ne pas se mélanger, de ne pas vouloir manger avec les autres, de ne pas participer au banquet de la cité grecque. Le banquet était très important pour le lien social. Mmh. On leur reproche éventuellement de ne pas se marier avec des non-juifs ou des non-juives. On leur reproche de se mettre à l'écart. Ouais. Et je pense que la tension vient de ce que les juifs étaient en même temps très bien intégrés dans le monde gréco-romain. Il ne faut pas oublier qu'il y avait des juifs qui avaient des citoyennetés locales dans des cités grecques, par exemple, qu'il y avait des juifs qui avaient la citoyenneté romaine. Il y avait d'ailleurs des juifs qui faisaient de très belles carrières dans l'administration romaine, au point, et ça suscitait quand même la suspicion d'autres juifs. Je pense au neveu de Philon d'Alexandrie, Tiberius Julius Alexander, qui a eu une carrière, il a été préfet de Judée pour les Romains, il a été gouverneur d'Égypte pour les Romains, il a été aux côtés de Titus lors du siège de Jérusalem et de la destruction du Temple. Donc il y avait des juifs qui étaient très bien intégrés et qui servaient dans les armées romaines et qui, voilà.
Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce sujet de thèse?
Alors, je l'ai choisi parce qu'en lisant les textes juifs, et notamment Philon d'Alexandrie et Flavius Joseph, j'ai été frappée par la récurrence de propos où il disait « Mais non, les lois de Moïse ne sont pas misanthropes, non, 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 nous sommes très philanthropes, au contraire, nous sommes prêts à accueillir les convertis, donc voilà, nous accueillons des non-juifs dans nos communautés, etc. » Et ça m'a interpellée, en fait, parce que j'étais très intéressée par toute cette thématique des relations entre juifs et non-juifs. Et du coup, je me suis dit, mais est-ce que ça a été étudié? Et je me suis rendu compte qu'il y avait, il y avait un chapitre dans un livre, il y avait des articles ici ou là, mais en fait, personne n'avait vraiment consacré une monographie à cette question des accusations de misanthropie contre les juifs. Or, c'est quand même une des accusations qui va perdurer tout au long de l'histoire juive. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental dans mes choix de thèmes de recherche. En général, je travaille toujours sur des thèmes qui peuvent se penser dans la globalité de l'histoire juive. Ça commence dans l'Antiquité, mais en fait, les problématiques demeurent par la suite. Par exemple, dans l'Antiquité, on accusait aussi les Juifs d'être athées. Éventuellement, d'être, en tout cas, de ne pas respecter les dieux des Grecs, des Romains, des autres. Évidemment, avec le triomphe du monothéisme chrétien puis musulman, bon, cette accusation n'a plus lieu d'être. Aujourd'hui, personne ne va reprocher aux juifs d'être athées. Nous, il y a d'autres accusations, enfin accusations ou reproches ou moqueries, disons, qu'on trouve dans les textes grecs et romains, comme par exemple le fait de se moquer du repos du Shabbat. C'est quelque chose qui n'est pas compris du tout dans le monde gréco-romain où la notion d'un repos comme ça hebdomadaire n'existe pas, il faut le rappeler. C'est totalement révolutionnaire, en fait. Et surtout l'idée d'interrompre tout travail. Hein. Mmh. C'est vraiment quelque chose de profondément contre-culturel dans le monde gréco-romain. Et donc, on trouve des textes qui se moquent des juifs en disant, ben voilà, ils sont paresseux. Ou alors on dit, bon, ils n'ont pas combattu et du coup Jérusalem a été prise parce qu'ils ont cette étrange habitude de s'arrêter le septième jour, etc. Bon, évidemment, aujourd'hui, plus personne ne conteste l'idée d'avoir un week-end. Hein, voilà, ça n'est plus du tout pertinent. Donc, par contre, l'idée que les juifs ne veulent pas se mêler aux non-juifs, que même, c'est un des aspects du protocole des sages de Sion, par exemple, hein, un des textes antisémites les plus célèbres de la modernité. Et c'est quelque chose qu'on retrouve encore aujourd'hui, avec différentes variantes. Donc voilà. Donc
Il y a une permanence de cette idée que les juifs se séparent du reste de l'humanité.
Exactement. Évidemment que, comme vous le disiez vous-même, ça repose aussi sur quelque chose de réel dans les textes juifs.
C'est pas complètement faux.
Qu'il y a une sainteté particulière d'Israël qui fait qu'Israël ne doit pas se mélanger aux nations. Donc en fait, je pense que c'est là où c'est le plus pervers. C'est quand, en fait, quelque chose s'appuie sur un constat réel, mais ensuite l'interprète de manière pernicieuse.
Parce qu'en fait, on pourrait dire, OK, ils veulent faire bande à part, grand bien leur face.
Oui, et puis surtout parce qu'il y a un sens en même temps de cette mise à part. Et dès les textes bibliques, ce sens a aussi une portée pour l'humanité dans son ensemble. Donc je dirais que c'est ça qui, dans le discours antisémite, est laissé de côté. C'est aussi cette idée que le fait d'être Israël et de persévérer dans cette identité particulière sert aussi à un sens, une valeur, une portée pour l'humanité dans son ensemble. C'est ça qui ne sera jamais vu par ceux qui pointent du doigt le refus de manger ensemble, etc., etc.
Est-ce qu'il manquerait au monde sans les Juifs ?
Déjà, il manquerait la Torah et il manquerait l'étude de la Torah. Et ça, c'est une des choses qui m'ont le plus attirée vers le judaïsme quand j'ai eu l'occasion de suivre des cours d'études juives, c'est ce rapport au texte. Et que je ne trouve pas ou beaucoup moins en contexte chrétien. Les chrétiens, souvent, quand ils lisent un texte de la Bible, en fait, ils veulent juste comprendre le message, ils veulent comprendre l'idée. Et je pense que c'est lié à tout un certain type de formation et d'éducation, à la fois à l'école et à l'Église. On veut juste comprendre le message, l'idée. Alors que dans l'approche juive des textes, et en particulier dans l'approche rabbinique, on va scruter le texte dans ses moindres détails. On fait vraiment attention à la littérarité du texte. Alors moi qui venais des études littéraires, évidemment, ça me parlait aussi. Tout comme me parlait l'intertextualité, le fait de faire se répondre les textes entre eux, de les faire dialoguer entre eux, de tisser des réseaux de sens. Mais je trouve aussi que pour une lecture spirituelle ou existentielle des textes, c'est beaucoup plus fructueux. Ça permet vraiment de travailler le texte, d'en dégager le sens de manière beaucoup plus intéressante qu'une lecture superficielle. En fait, souvent, dans la prédication ou le sermon chrétien, le texte est un point de départ pour dégager un thème qui ensuite va être exploré dans la prédication. Mais souvent, on ne revient pas beaucoup au texte. C'est ce que j'appelle le texte-prétexte. En réalité, dans l'étude juive, le texte n'est jamais un prétexte. Le texte est le but. Et on étudie pour étudier, en réalité. Pour l'amour du texte. Et ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, à titre personnel, dans le judaïsme.
Alors, pardonnez-moi de la grossièreté de ma question, mais quand on a ça, est-ce qu'on a encore besoin de Jésus ?
Ah, mais Jésus, c'est une certaine interprétation de la Torah, d'abord. Donc on peut aimer cette interprétation de la Torah. Et puis Jésus, pour nous, chrétiens, c'est d'une certaine manière voir le visage de Dieu qu'on ne peut pas voir. On ne peut pas voir le visage de Dieu sans mourir. Et d'une certaine manière, pour nous, Jésus, c'est le visage de Dieu. C'est-à-dire, c'est Dieu qui se rend proche de l'humanité. Et je dirais que cette notion d'incarnation, qui paraît si étrangère à la pensée juive, moi, je trouve qu'elle n'est pas si étrangère que ça. Parce que dans la tradition rabbinique, par exemple, on parle parfois de la shrina, la présence divine, qui se roule par terre dans la poussière de douleur à cause des souffrances du peuple d'Israël. Donc on a cette idée d'un Dieu qui souffre avec les souffrances des hommes. Et finalement, l'histoire de Jésus, c'est aussi ça. C'est un Dieu qui n'est pas loin des hommes. C'est un Dieu qui vient partager la condition humaine et qui souffre et même qui meurt. Et là, moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui résonne par rapport à Jésus, le Messie crucifié, donc humilié. Voilà. Mais avec cette perspective de la résurrection, qui est commune au judaïsme et au christianisme, l'espérance de la résurrection, l'espérance que la vie sera plus forte que la mort, voilà, je pense que c'est quelque chose qui nous rassemble aussi.
C'est très fort ce que vous avez dit là, c'est-à-dire que dans le christianisme, on s'autorise, ou en tout cas on voit ce qu'on n'est pas censé voir. Ça, c'est le pas franchi par le christianisme
par rapport au
judaïsme.
Tout à fait.
On ne peut pas dire que Dieu se trouve dans le texte, dans l'étude des textes ? Vous qui êtes plongé dans les textes tout le temps ?
Dieu se trouve aussi dans les textes. Dieu se trouve aussi dans la nature. Dieu se trouve aussi dans la personne que vous rencontrez. Dieu peut parler par beaucoup, beaucoup de biais.
Là, on croit entendre le Baal Shem Tov. Là.
Ah, peut-être. C'est vrai que j'aime beaucoup les écrits du Baal Shem Tov. Ouais. Donc oui, bien sûr, dans le texte aussi. Et c'est ce que dit, d'une certaine manière, le prologue de l'Évangile de Jean en disant... que le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu, et le Verbe s'est fait chair. C'est le Logos, c'est la parole. Et c'est quand même quelque chose qu'on retrouve aussi un peu dans les Targoumim. On parle de la Memra, donc la parole divine, qui, elle aussi, est-ce que c'est une deuxième personne divine ? Est-ce que c'est pas totalement clair ? Et chez Philon d'Alexandrie, il y a aussi le rôle du Logos. Et Philon d'Alexandrie dit... l'être humain a été créé à l'image de Dieu, mais pas directement à l'image du Dieu créateur du monde. Parce que ce serait... Non, il y a quand même la médiation du Logos. Donc le Logos, il est à l'image de Dieu, et l'être humain est à l'image du Logos. Donc, vous voyez que c'est quand même... Dans certains textes juifs du 1er siècle, on est quand même dans des choses qui sont compliquées au niveau théologique, et qui permettent de comprendre que le christianisme... Au départ, c'est quand même un certain type de judaïsme.
C'est assez déstabilisant et troublant de discuter avec vous, en fait, parce qu'en vous écoutant, on comprend bien que tout ça est très proche, très voisin et entremêlé. Tradition juive et tradition chrétienne sont deux branches qui ont grandi ensemble. Et d'un autre côté, vous-même, vous êtes franchement et clairement d'un côté.
Bah, je ne trouve pas que ce soit si... franc que ça, dans le sens où je suis chrétienne, je suis protestante, je suis membre de l'EPUDF, mais je suis spirituellement très juive. C'est-à-dire, je suis très nourrie par la tradition d'Israël. J'ai une approche des textes, une sensibilité aux textes qui est vraiment façonnée par toutes les heures que j'ai passées à suivre des cours d'études juives, à fréquenter même des groupes de chevroutot en Israël, etc. etc. Enfin, j'ai vraiment beaucoup baigné dans le monde des études juives, mais je veux dire, pratiqué par les juifs. Donc, moi, je me considère comme spirituellement mixte, si je puis dire. Et je le vis très bien. Et je pense que c'est... Enfin, je veux dire, encore une fois, Jésus, les apôtres, Paul, etc., c'était tous des juifs qui n'avaient jamais lu le Nouveau Testament et qui ne connaissaient que les Écritures d'Israël. Donc, en gros, c'est assez normal, finalement, de s'y retrouver dans la tradition juive. Moi, on m'a dit aussi, tu es la réincarnation d'une âme juive. C'est pour ça que tu as cette sensibilité au judaïsme. Alors, moi, je ne crois pas à la réincarnation, mais je comprends que ça puisse être une explication pour certaines personnes. Mais en même temps, je dirais qu'il faut faire attention, parce qu'il y a peut-être un risque d'essentialisme dans cette vision-là. De la même manière que de voir les convertis au judaïsme comme des personnes qui auraient aussi été juives dans une vie antérieure, j'ai entendu ça aussi, des juifs qui expliquaient le fait que des non-juifs se convertissent au judaïsme comme « Ah oui, mais en fait, ce sont des âmes juives qui se sont égarées au fil de leur réincarnation et qui reviennent au judaïsme. » Mais du coup, ça essentialise énormément. Ça voudrait dire qu'en gros, il y a des âmes juives et puis il y a des âmes non-juives et qu'au final, il n'y a pas de communication entre les deux. Alors que moi, je crois au contraire beaucoup au passage et au fait que juifs, non-juifs... Non, il y a beaucoup de passages possibles, il y a aussi du commun. C'est important aussi que les juifs aient conscience que le judaïsme est attirant pour des non-juifs. Hein? Que vraiment, il y a un message, enfin, pas réduire le judaïsme à un message bien sûr, mais il y a vraiment des aspects intellectuels, existentiels, spirituels qui sont parlants pour des gens, et aussi pour des non-chrétiens d'ailleurs, pour des non-croyants. Hein? J'insiste là-dessus. Le judaïsme est attirant intellectuellement, existentiellement, spirituellement, pour des gens qui n'ont pas de religion, qui n'ont pas de croyance particulière, mais qui voient qu'il y a là du sens, qu'il y a quelque chose d'intéressant, vraiment.
Mais la question ultime, c'est plutôt Ashkenaz ou plutôt Sépharad ?
Ah, là, c'est une colle.
Merci, Katel Bertolo.
Merci à vous.
Presque juif, une production Academ. Conception et présentation, Ruben O'Neillman. Prise de son et montage, Isaac Payon.